Alors, nous parlons à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
Eh bien, les vacances s'en viennent, mon ami.
Les vacances s'en viennent, mais hein? Écoute, je veux t'entendre absolument sur Jagmeet Singh. Ça n'a pas d'allure.
Ben écoute, ça va être le sujet de mon texte qui va être publié plus tard aujourd'hui.
Okay.
Entre autres, je reviens là-dessus parce que, écoute, je trouve ça absolument sidérant que au cours des dernières heures, Jagmeet Singh ait reçu l'appui senti, militant du premier ministre de la Colombie-Britannique. Il dit dans un tweet équivoque qui s'indigne complètement qu'on demande, qu'on daigne même demander à Jagmeet Singh de s'excuser car il pointe les racistes. Moi, je rendu là, je me dis, OK, on est ailleurs. Là. Le premier ministre du Canada qui a ajouté son petit brin de woke, ça, on le savait. Là, on est rendu avec un autre premier ministre dans la province. Quiconque connaît un peu à l'intérieur, là, on est dans l'antithèse du racisme, OK? Puis là, ça commence à bien faire. Au cours des dernières heures, deux autres personnes qui sont dans la sphère des médias dans le Canada anglais ont renchéri. Je pointais hier vers une journaliste de CTV Toronto qui, tout à coup, décide de tweeter ben, « Victoire pour Wikipédia » parce qu'il y a quelqu'un qui a changé la biographie d'Alain Terrien puis qui a marqué
ben, oui.
« Politicien canadien et un raciste ». Puis là, ben, elle dit « Voilà, victoire pour Wikipédia ». Elle s'est excusée, elle a retiré ça. Une autre dame qui, tout à coup, décide de partager un incident vraiment à caractère raciste qui se produisait, si l'information est bonne, à Toronto. Et elle dit « Écoutez, l'accent anglophone de cette personne-là, c'est sûrement un Québécois. » Puis ensuite, déjecte son fiel. Puis ça, c'est une ancienne journaliste. Déjecte son fiel contre le Québec. Il y a beaucoup de personnes ensuite qui ont répondu « Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi vous attisez cette haine-là? C'est pas du tout un Québécois. » On est rendu là-dedans. On est dans quelque chose, Richard, qui dépasse l'entendement. Et si on continue dans cette voie-là, on va avoir un sérieux problème systémique. Et moi, je crois qu'il existait déjà. Mais là, il est temps qu'on nous dit toujours « C'est pas le temps de parler de ça. Faites place aux gens racisés. C'est de eux qu'il faut qu'on parle. » Non. Là, il faut qu'on parle de ça maintenant parce qu'on dépasse les bornes. Là.
Parce que moi, la peur que j'ai, la crainte que j'ai, puis j'imagine que tu partages ma crainte, c'est que ça, tout ça, là, ces dérapages-là, ça alimente l'extrême droite. Tu regardes des fois aux États-Unis, là, certains propos là, de radicaux de la gauche, là, tu te dis, coudon, ils veulent-tu faire élire Donald Trump? Ils veulent-tu un deuxième mandat de Donald Trump? Parce que c'est ça que ça peut arriver, là.
Mais au moins ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, Richard, puis il faut quand même le dire, oui, c'est vrai qu'il y a l'expression d'un radicalisme de droite et d'extrême droite en appui à Donald Trump, mais en ce moment, moi, je vois un mouvement de républicains, et il est fort, et il pousse maintenant, il fait descendre Donald Trump à 38% dans le dernier sondage, et c'est un sondage à la méthodologie éprouvée, et on regarde aux États-Unis maintenant, puis là, tout à coup, il y a pas mal de gens dans le Parti républicain qui disent, savez-vous quoi, on laisse couler Donald Trump, on n'a pas le choix de le faire, et au final, là, peut-être qu'on va avoir un mandat de Joe Biden. Puis il y a bien des républicains qui peuvent vivre avec Joe Biden en passant. Puis là, ben on se dit, voilà, et on va refaire la marque de commerce du Parti républicain post-Donald Trump. Et il faut faire, tu sais, il y a des gens de grand talent et il y a des républicains aux États-Unis qui sont tout à fait conscients de ce que ça pourrait vouloir dire pour le pays. Mais là, on le voit, là, il descend de plus en plus. Puis au moins, on se dira que chez nos voisins du Sud, ben on est en train, là, carrément de construire l'après Donald Trump. J'espère que ça va se confirmer.
Mais en tout cas, ici, il y a un dérapage solide. Oui. Et moi, je ne comprends pas que Singh refuse de s'excuser.
Ben pourquoi il le ferait? Parce que là, en ce moment, lui, il courtise une base quand même intéressante pour lui. C'est la même raison pour laquelle ici au Québec, il y a des gens, par exemple, dans les ce qu'on appelle là, la gauche peut-être un petit peu plus assumée, là, qui est très très antiraciste. Ces gens-là ne trouvent pas à demander à Jagmeet Singh non plus de s'excuser. J'en ai vu plusieurs moi-même qui disent ben voilà, écoute, le Bloc de toute façon avait fait campagne sur le dos de la frontière et tout ça, puis mérite d'être traité de raciste. Et on les connaît, ces gens-là, alors que c'est totalement faux. Et rendu là, je veux dire, ce qu'il faut qu'on comprenne, là, on est dans une espèce de pas de combat, mais je dirais, on est au cœur d'un débat qui est très, très militant. Et les plus militants de la gang, d'un côté comme de l'autre, vont faire déraper ce débat-là, alors que c'est tout à fait, on va se le dire, là, il faut discuter de racisme. Puis moi, j'ai aimé l'angle que choisit François Legault puis son gouvernement de dire, ben voilà, nous, on va aller vite. On va faire une courte commission à l'intérieur de nos rangs et on va vous arriver avec des propositions puis des solutions. Et il ne va pas adhérer, il va pas se laisser distraire par, si on veut, les plus militants de la gang qui diraient, ben non, crache le morceau, puis expie tes péchés, puis dis-le qu'il y a du racisme systémique. Puis lui va pas embarquer là-dedans. Mais on verra ce qu'il a à proposer.
Mais concernant le Bloc, là aussi, là, t'sais, on focus sur le fait que le Bloc a refusé de reconnaître qu'il y avait du racisme systémique au sein de la GRC. Mais attends, c'est parce que le Bloc venait de donner son aval à la tenue d'une enquête du comité d'éthique pour savoir s'il y en a. Fait que là, après ça, le Bloc a dit, ben regarde, là, il va avoir une commission, puis après ça, on verra les recommandations, les conclusions de ce rapport-là, puis on va se prononcer. Mais on peut pas dire, d'un côté, il va avoir une enquête, puis après ça, se prononcer sur l'existence du racisme systémique. Ça tombe sous le sens, Christy?
Ben oui, t'as raison de le souligner. Puis le lendemain matin, donc le Bloc, encore une fois, donc donnait son aval à cette enquête-là. Il faut aller lire aussi. Il y a bien peu de gens, là. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont là puis qui déchirent leur chemise. J'ai demandé à plusieurs d'entre eux, as-tu lu la motion? Avez-vous lu la motion de Jack Meeting? Je veux dire, tu sais, c'est encore une fois une motion très longue. Puis il y avait là-dedans aussi des angles politiques. Moi, je suis surpris qu'il y a des gens parti conservateur qui ont appuyé ça. Mais bon, ben c'est du parlementarisme. Alain Thérien a parlé au nom du Bloc, puis a dit attention, pour telle et telle raison, on peut bien être en désaccord. Puis moi, je comprends tout à fait qu'on peut être en désaccord avec ça. Des motions comme ça, ils s'en votent dans tous les parlements provinciaux et fédéraux à tous les jours, fédéral et provincial, ils s'en votent à tous les jours. Mais là, on franchit quelque chose. Et pire, le lendemain matin, Jack Meeting rentre là, puis il n'y a pas de problème. Mais si on avait traité de racisme, si on avait visé les Premières Nations, si on avait visé, par exemple, une autre collectivité que les Québécois, de façon aussi vicieuse que ce que l'a fait Jack Meeting, est-ce que ce politicien-là, chef de parti, aurait été réadmis le lendemain? Est-ce que c'est ça le standard maintenant de la Chambre des communes? Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas.
Oui, tout à fait. Écoute, au provincial, François Legault, il est indélogeable.
Oui, c'est ça. Là, écoute, on regarde la carte. Là, il y a deux choses qu'il faut comprendre là-dedans. Premièrement, on regarde la carte géographique, puis là, c'est on ne peut plus clair. François Legault domine sur tout le territoire. François Legault domine même par chez nous, ce qui n'a jamais été fait. Là, il pourrait remporter 3 des 4 circonscriptions en Outaouais. Il y en a déjà 2. Et là, ce qu'on remarque, là, c'est que la politique au Québec est en train de changer. Il va avoir 2 axes. Et moi, je crois que ça va durer jusqu'en 2022 parce que les plus militants de la gang vont faire en sorte qu'on va parler des dossiers identitaires jusqu'en 2022 et même au-delà. Et tant que la politique va au Québec va être dopée par des questions hyper polarisantes sur l'axe de l'identité, ben on aura tout le Québec et on aura Montréal autour. Et dans ce Québec-là, ben il y a un petit peu de Parti québécois à l'est. Et pour le reste, ce qu'on voit, c'est que le Montréal est occupé par le Parti libéral et Québec solidaire, et ceux-ci vont se disputer quelques sièges entre eux. C'est quand même assez incroyable parce que certains m'ont dit Québec solidaire aurait même avantage peut-être à collaborer avec le Parti libéral et parce qu'ils s'entendent comme larrons sur cette question-là. Ben, je veux dire, jusqu'aux dernières nouvelles, Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, mais bon, pour ceux qui y croient encore.
mais c'est ça le problème, mais la situation de la CAQ, c'est qu'ils ratissent large. Hein. Ils ont comme, avant le parti de l'économie, c'est le Parti libéral, là, c'est rendu la CAQ. Avant le parti d'identité, c'est le Parti québécois, là, c'est rendu la CAQ. C'est-à-dire qu'il occupe tout l'espace.
Il occupe tout l'espace, puis je vais dire, dans un comté comme le mien, j'ai raconté à une antenne régionale ici l'histoire d'un monsieur que je connais bien, Michel, qui est un militant du Parti libéral ici. C'était un proche de Normand McMillan à l'époque, tout ça. Puis j'aime bien, parce que pour moi, c'est le baromètre d'un militant libéral dans notre coin en Outaouais, tu sais, fin cinquantaine, il a toujours voté libéral, il a milité beaucoup et tout ça. Puis je faisais une entrevue avec lui, puis il me disait, là, carrément, écoute, je reconnais plus ce parti-là. Il me parlait, lui, quand il s'était engagé en politique, de Robert Bourassa, puis il disait, voilà un homme d'État et tout ça. Puis il regarde le Parti libéral maintenant, puis il se disait, moi, j'ai absolument aucun atome crochu, c'est un Québécois de souche. Il regarde ça, puis il dit, moi, je me reconnais plus dans ce parti-là. Et là, ben, le voilà rendu à la CAQ. Mais ce qui arrive, c'est que je peux te nommer aussi des tonnes de militants péquistes ici, de la première heure, et des gens dans des maires de village qui disaient, moi, je suis fier, mon pôle a toujours été péquiste. Tu sais, c'était comme ça à l'époque, t'étais bleu ou rouge. mais ces gens-là sont aussi rendus à la CAQ. Et on comprend là que François Legault occupe un terrain politique qui, il y a 5 ans, les gens disaient, ben non, voyons donc, ça fonctionnera pas. Mais là, ce terrain politique-là, ça pourrait probablement lui... Si on continue comme ça, ça va lui assurer 2, peut-être même 3 mandats. Lui, il dit qu'il en fera 2 puis qu'il va démissionner, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même assez hallucinant. Et Philippe Fournier, de QC125, dans l'actualité, il fait bien de rappeler que des taux d'approbation comme ça, puis une espèce de d'hégémonie politique d'un parti politique...
Est-ce
là,
que c'est inquiétant?
Ça fait très longtemps que ça s'est vu au Québec.
Mais est-ce que ça t'inquiète, ça?
Moi, ça m'inquiète d'une certaine façon, oui, parce que pendant qu'on parle d'identité, puis pendant qu'on est polarisé sur ces questions-là, est-ce qu'on oublie déjà comment que ça s'est passé, le projet de loi, la loi 40 sur les commissions scolaires? Est-ce qu'on oublie le PEC, le PEQ de Simon-Jolin Barrette? Je veux dire, il y avait là un cafouillage. On dira, oui, mais il venait d'arriver au pouvoir, il n'avait jamais gouverné. Mais quand on regarde la défaite, je veux dire, humiliante, là, sur le projet de loi 61, tu sais, je veux dire, la CAQ, là, en même temps, je veux dire, c'est pas tout rose. Puis, il y a des questions à se poser. Puis là, après la pandémie, il va y avoir l'austérité. Il va falloir qu'on repaye tout ça, comment que ça va s'engager, mais tant que les questions identitaires vont être polarisantes puis vont être à l'avant-plan, ben tout ce que la CAQ va faire en dehors, ça va être difficile de faire coller ça. Mais on a besoin d'une opposition. On a besoin quand même d'avoir une alternative si jamais ce parti-là dérive. Et en ce moment, le Parti libéral puis Québec solidaire se sont exclus d'emblée par leur position identitaire. Et si on verra au Parti québécois ce qui peut se passer, ça pourrait renaître. Le Bloc l'a montré, il peut renaître. Mais je veux dire, quand même, on s'entendra pour dire qu'en ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la course quand même.
Non, pas tellement. Toi, t'es-tu excité par la course au PQ?
Je regarde ça. Je trouve intéressantes les interventions que certains candidats font. J'aime beaucoup l'angle que prend Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, je veux dire, la façon dont il s'exprime et tout ça. On verra ce qui va se passer. Il faut jamais, jamais compter le Parti québécois comme battu parce que ça fait longtemps qu'on le dit, ben il va s'éteindre. Là, on va s'entendre que il y a pas un genou là, il y a quasiment 2 genoux au plancher là, et si pas plus. Mais on verra ce qui va se passer. Mais il suffirait quand même que le vernis de si on veut, le nationaliste de la CAQ s'effrite et la première valeur sûre après la CAQ, je veux dire, ça sera quand même le Parti québécois. Fait qu'il faut pas le compter pour battu, mais en même temps, il faudra qu'il se passe un électrochoc très, très important et on verra. Parce que là, il reste quelques jours. Ben, il reste pas beaucoup de temps, là. Faut que je fasse attention, mais il reste pas beaucoup de temps pour que les autres candidats, je veux dire, fournissent leur caution financière et les signatures et tout ça. Je vois qu'en fin de semaine, par exemple, il y a un gros blitz de signatures prévues à Québec et tout ça. Puis là, on s'active. Il va y avoir une course, mais j'espère que cette course-là va se faire à plus que 2. J'espère qu'il va y avoir plus de candidats.
Non, j'espère que Frédéric Bastien va avoir ses signatures parce que ce gars-là, c'est important ce qu'il dit. Puis moi, je veux qu'il soit présent lors des débats. C'est un plus pour le Parti québécois.
Il va les avoir, Richard. En tout cas, on me dit là, que Frédéric Bastien, là, ça devrait pas être un problème. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'appui. Je sais pas... Moi, c'est vrai, il faudra qu'il soit là, mais il faudra aussi qu'il diversifie son discours. Là. Si on ne fait la course que à partir des questions identitaires et toujours en tapant sur le même clou, ben écoute,
en anglais, on appelle ça un one trick pony. Tu connais ça, tu connais l'expression? Un one trick pony, j'adore ça. Oui. Écoute, la bonne nouvelle pour nos auditeurs, c'est que tu prends pas de vacances, tu vas être là. C'est Des, notre ami Vincent Dessureau, qui va animer un show de 1 heure à 3 heures et tu vas être présent tous les jours, Steve.
Je vais être là, puis je veux dire une chose et je veux dire, je le dis là vraiment, c'est une belle collaboration qu'on a. Prends des bonnes vacances, puis c'est un. Je veux dire merci à toute l'équipe, Maud, Hugo, tout ça, tous les gens autour. C'est un plaisir de faire de la radio avec toi, Richard.
Mais merci.
J'espère qu'on va se revoir.
Moi, j'ai appris à te connaître, puis j'adore, j'attends tout le temps nos discussions, tout ça. T'es un gars passionné, avec une fougue et tout ça, et un courage, je dois le dire, un courage, parce que tu attaques souvent ta propre famille idéologique. Donc, merci, puis profite de ton été, Steve.
OK, salut bien.
Salut, bye.